La Fièvre des sucres est un podcast acéricole avec des voix libres, stimulantes et qui interpelle l'industrie pour amener l'acériculture au-delà de ses limites actuelles. Dans ce cinquième épisode, nos trois acériculteurs passionnés, Michael Gagné, David Bolduc et Marco Gilbert, poursuivent les échanges avec l'ingénieur forestier Patrice Bertrand, qui est responsable du club d'encadrement acéricole de Portneuf. Ensemble, ils discutent du potentiel dans les milieux très escarpés. Ils vont au bout de leurs réflexions au sujet des érablières en terre publique et ils échangent aussi au sujet des avantages écologiques des érablières en exploitation, du broutage des serres et des enjeux liés à la régénération ainsi qu'à la fougère envahissante. Cet épisode de La Fièvre des sucres, disponible sur YouTube et Spotify, vous est présenté par la microbrasserie La Souche, avec la participation de Maple Works, une entreprise d'aménagement forestier et d'installation d'érablières, ainsi que de services acéricoles Giroux pour toutes vos solutions en soudure, TIG, fibre optique, automatisation et télécom. Ce podcast est produit par Forêt Vive, également créateur de la chaîne YouTube Le goût du territoire, une mine d'infos et de passion pour les amoureux de la foresterie, d'acériculture et plus encore. Bonne écoute de l'épisode 5 de la première saison du podcast La Fièvre des sucres, intitulé « Deuxième rencontre avec Patrice Bertrand, ingénieur forestier ».
On va revenir à la région. Les contraintes de la région aussi pour le développement, c'est quoi, d'après toi? La pente, c'est clairement
compliqué. Oui, j'ai constaté ça en arrivant. Disons,
on arrive de Saint-Jacques-de-Lys, on pense qu'il y a de la montagne. Mais quand on voit les flancs d'érable, chez nous, il y aurait des tuiles partout. Ça, c'est sûr et certain, ça serait déjà développé. Parce qu'on a commencé par les terrains faciles, les moins faciles, les digues de roche. Parce qu'il y avait quelques érables. Là, il n'y en a plus d'érables disponibles. Saint-Jacques-de-Leeds, nous autres, c'est... Mais ça, des érables, moi, j'ai fait un inventaire. Je le vois, je la vois à la montagne, là-bas. Je sorti 55 000 entailles potentielles. Il n'y avait rien entaillé il y a 3 ans. On sait qu'il va y avoir un développement. Heureusement, ils ont été tirés au sort. Il y a 25 000 entailles qui se donnent. Un autre, je pense que c'est un autre 10 000 ou un autre 25 000 qui va se donner cette année. C'est parfait. Sauf que j'ai vu des contraintes de terrain qui sont plus difficiles. J'aimerais ça que tu m'en parles.
Bien, c'est ça. C'est au niveau opérationnel aussi. Là, hein, si tu fais ton aménagement acérico-forestier, ben, tu arrives là-dedans comme ça. Tu te dis, OK, on n'enverra pas machinerie là. Regarde, au pire, on tirera juste les chicots par terre. Puis ça va s'arrêter là. Il y a des fois, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Là. Mais par contre, ça s'installe. Puis quand vient le temps de faire les entorses, d'entoyer, on va partir d'en haut en descendant. T'sais, on ne partira pas en montant. Fait qu'on va tout le temps, il y aura un gars qui va te monter en skidou. Il va débarquer les employés en haut. Les employés vont descendre comme ça. Parce que là, monter ça à raquette, tu t'arraches le cœur. Fait que, mais c'est tout à fait possible. Puis un érablière commence à marcher de même, comme ça, l'eau, elle arrive en bas, là, elle est belle en tabarouette. Elle stagne pas. Là.
Non, elle descend.
Quand tu as des mains là, à 0,5%, là, puis même, il y en a qui ont moins que 0,5%, bien ça, veut pas, c'est un eau qui a tendance à vouloir se gâter si t'as pas été fait innovant à toutes les années. Puis, fait que ça, elle se gâte pas, là, ici, là, elle arrive belle. Là.
Mais ça, fait que même en ayant des pentes fortes, c'est plus difficile sur le terrain, mais il y a quand même un avantage.
Il y a des points positifs, c'est en plein ça. C'est dur l'installation, hein, le gars qui monte le main, là, c'est pas évident, là. Mais c'est dur sur l'installation, mais un coup qui est installé, c'est bon pour 30 ans, là, tu sais. Fait que, donne un coup, après ça, tu
sais. Ouais, puis vous faites des chemins en conséquence. Puis
on essaie de faire des chemins en conséquence.
Puis si je me trompe pas, avec des pentes fortes de même, l'aménagement forestier est pas... ce serait pas plus rentable en forêt. Je veux dire, aller faire du bois pour de la matière ligneuse dans des pentes, tu seras plus capable d'y aller. Fait que, elle se fera pas. Fait que c'est bien de développer en acéricole que de le développer en forêt pour faire de la matière ligneuse.
T'as tout à fait raison. Exact.
Puis c'est ton âme. Que ça me semble être ça.
C'est ton âme, il y a beaucoup de ça, là, effectivement. Ben, on tombe direct dans le bouclier laurentien. Hein. On est direct dedans, là, tu sais. Fait que, par contre... il y a quand même des belles érablières. Tu sais, on dit, là, c'est ton âme. Moi, j'ai un gars, là, il y a une érablière à la sucre. Un des producteurs, il y a une érablière à la sucre, là. Puis j'en ai un, deux. Les érables, là, sont belles en tabarouette. Là, on est au nord. On est moins au nord qu'à ton âme, d'après moi. Ouais. On est au nord. Fait que, non, il y en a des belles érablières, encore.
À la sucre, il y a du chêne rouge. où il pousse du chêne rouge, d'après moi.
OK, ouais, je sais pas.
Oh, oui, j'ai pogné des beaux peuplements de chêne rouge. Okay. S'il y a du chêne rouge, il y a de la belle érable. Okay. On a dans la tête que c'est dans le nord. C'est dans le nord des villes, oui.
Mm-hmm.
Mais est-ce que c'est vraiment si nordique que ça comme latitude? Ça, c'est une autre chose.
Puis avec les changements climatiques qu'on est en train de connaître là, ben moi, j'ai bien l'impression que l'érablière qui est au Vermont, ça sera peut-être pas évident, mais l'érablière qui est à Stoneham, d'après moi, ça sera vraiment pas un problème. Là.
Parce que les
ça prochains... va même favoriser. Là.
Les prochains développements agricoles que tu vois dans le Québec, toi, comme ingénieur, tu vois, ici, je pense qu'il y a un potentiel parce que c'est peu exploité.
Mm-hmm.
Nous autres, ben dans notre coin, c'est parce que c'est rare qu'il n'y ait pas un érable, qu'il n'y ait pas un chevreau. Ouais, fait que... Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a le Témiscouata, le Témiscamingue, puis il y a la rive nord de Québec.
Qui est, effectivement. Mont-Laurier, les Laurentides, dans aussi, pas mal de jours de fun à aller faire là. Mais oui, effectivement. Là, sinon, il va falloir planter des érables, puis faire comme. Tu sais, mettre des manchons forestiers, puis tu coupes l'érable complètement, tu sais, un manchon forestier, puis tu essaies de récolter de la sève de main.
Et si on prend le Témiscouata, Témiscamingue, puis, disons, nord de Montréal, entre Mont-Laurier et Montréal, on est beaucoup dans la terre publique.
Ah oui, oui. Tu reviens là. Ben oui.
Fait que si on massacre nos érablières sur la terre publique, notre développement, il va se restreindre à des petits secteurs. Malgré que c'est un nombre, il y a un bon nombre d'entailles, il y a ce tournant, je veux dire, on parle peut-être de quoi, 1 million d'entailles dans la région?
Il y a une étude qui a été faite.
3 millions d'entailles.
3 millions, je m'en souviens plus.
C'est beaucoup, mais ça... Ça ira pas assez rapidement, quand même. De penser qu'ils vont tout être installés, c'est une lubie.
C'est sûr qu'il y a des secteurs, c'est beaucoup plus difficile. Il peut y avoir des petits morceaux à un tel endroit. Puis, regarde, on n'ira pas se mettre une station de pompage pour juste 1000 entailles.
La dernière émission de contingent qu'on a eue, c'est 7 millions. Mm-hmm. Puis on s'attend à une prochaine émission qui va autour de ça, pour que ça vaille la peine d'installer.
Mm-hmm.
Okay. Dans la prochaine émission de contingent, si le monde de la région y pense, ils vont peut-être être capables d'en mettre beaucoup.
Mm-hmm.
Mais après ça, on va où? C'est ça la question.
Ah, c'est vrai que ça va être des publics qui vont être fortement sollicités. Mm-hmm. Puis on dit. Je dis ça juste de même, OK, là? Peut-être que c'est pas vrai ce que je dis là. Mais on dirait que là où il y a des érablières qui sont en train de s'établir sur ta publique, on dirait que les érablières sont autour. Ah, les industriels, ça dépêche à aller les couper. C'est pas vrai, là.
C'est pas vrai. Moi, j'ai vu des cartes, puis je vois une corrélation.
Tu vois une corrélation?
Je vois une corrélation, puis je prends...
C'est pas statistique, c'est pas scientifique, madame.
Moi, mon secteur, c'est Appalaches, Beauce-la-Binière. On s'occupe de la seigneurie de Joly aussi.
Okay.
La seigneurie de Joly, il y a d'énormes potentiels de céréales en érable rouge. Malheureusement, on se fait dire que l'érable rouge, par le ministère, n'a pas de potentiel à céréales. Ouais. Mais les producteurs qui sont là présentement, j'ai un, entre autres, que je connais, Steve, il ne faut pas le nommer, ça fait 5 livres à l'entaille à chaque année. Il se fait dire que ce n'est pas un potentiel à céréales, tes agrandissements autour. Mais le peuplement qui exploite présentement, et le peuplement qui est à côté, c'est exactement la même chose. Mais le peuplement qui exploite présentement, il est en production à céréales, puis le peuplement qui est à côté, il va probablement être en coupe totale. Parce que l'érable rouge, un peu magané. C'est fou.
C'est complètement fou. Parce que tu me dis qu'elle produit, mettons qu'elle produit 3 livres et demi.
Oui, okay, là, mais il y a plus que ça.
Mais mettons qu'elle produit 3 livres et demi. Le gars qui va aller bûcher ça à blanc, là, ça va faire quoi? Juste de la pâte. De la pâte ou du charbon. Caroline, de bine, ça permet de popette. Si tu fais bien plus d'argent là, en allant chercher 3 livres et demi de sirop d'érable à toutes les années.
Ben oui. Parce que. Les avantages écologiques d'un érablière, tu serais-tu capable de m'en parler?
Icoline. Là, tu... Okay. Oui, puis non, là, tu me prends à brûle pour toi. Hein. C'est clair qu'il y a un avantage écologique. C'est que là, tu as une jeune ou une vieille inécouienne. Fait que là, tu as une érablière qui a... je dis vieille inécouienne, donc ou jeune inécouienne. Donc, tu as plusieurs classes d'âge. Là, je parle tout en... Je pense puis je parle en même temps, là, OK? J'avais pas préparé cette question-là pour tout. Mais là, il faut penser aussi que, contrairement à des années 80, 90, une érablière, bien, on faisait comme si c'était un champ agricole. OK? C'était de l'agriculture, une érablière à vocation céréale. Donc, ce qu'on voulait en 1980-90, on enlève toutes les autres essences pour ne produire que des érables. Ce qui était à la base... Intéressant comme idée, tu sais, on fait comme si c'était un champ agricole à tout court, tu sais. Mais là, on est dans un milieu vivant, Puis c'est pas pantoute comme un champ agricole. Fait que là, nos érablières qu'on a présentement, les gens y sont vraiment conscientisés à faire en sorte de conserver d'autres espèces que juste des érables à sucre.
Exact.
Fait que là, oui, je te dirais que oui, effectivement, c'est un on fait en sorte de préserver vraiment là, un écosystème, parce que le bouleau jaune qui est là, je ne veux pas l'enlever, je veux le conserver. L'ail qui est là, qui n'est pas attaqué par la maladie corticale du hêtre, crime, je ne veux pas l'abattre, je vais essayer de la conserver. Ouais, t'as bien que celle-là, elle va vivre, puis elle va permettre d'avoir des nouvelles rejetons qui ne seront pas... Fait que je vais conserver mon hêtre qui est là, quelques hêtres qui est là, et ainsi de suite. Puis non, oui, c'est un... contrairement aux années 80, 90, c'est un milieu naturel, vraiment, c'est un milieu naturel. Puis c'est sûr que tu vas encore voir des... Là, j'ai en tête un de mes clients, il va te bien dire voir ça, là. Lui, il est arrivé, il a dit, moi, là, il y a plein de branches, de la misère, le monsieur, il commence à vieillir un peu. Il est arrivé avec, l'espèce de bébelle, là, qui broie tout. Tout est broyé. Tout, il a tout broyé, là. Ah ouais, mon ami, là, il a tout broyé ça, c'est facile de marcher, c'est beau à voir. C'est beau à voir. C'est vrai que c'est beau à voir. C'est vrai que c'est le fun de marcher dedans. Puis Colin, il a tout broyé. Mm. Mais s'il n'y a plus ben des gens de même qui sont comme ça, là. Les gens à cette heure, là, ils vont dire, regarde, moi, je ne veux pas avoir des branches autour de mon 5-16. Fais ton 5-16, les deux pieds d'un bord, deux pieds de l'autre côté, mets ça clean. Mais après ça, entre les 5-16, tu n'es pas obligé d'aller enlever l'érable à giguère qui pousse là. Laisse-le aller, là, ton érable à giguère.
Mais nous autres, on a une réalité aussi différente. Nous autres, on est attaqués par les chevreuils. Fait que notre régénération, moi, là, mon but, là, c'est quand j'abats des arbres, je laisse le plus de branches possible dans un tas pour espérer que des érables ressortent de là.
Pour aller l'hiver à travers les branches.
Pour pas que les chevreuils aillent les manger.
Mais là, quand t'arrives là-dedans en raquette, c'est pas le fun?
Ça me dérange pas. Okay. On vit avec ça parce que... Mais on commence à faire ça, là. Parce que... Sinon, à grandeur, c'est que les chevreuils viennent manger toute la régénération. Aucune régénération. Ouais,
c'est vrai,
j'ai fait que là, laisse des tas de branches. Fait que là, à bon érable, garoche toutes les... Fait que là, tu fais un gros tas de branches, puis t'espères qu'il t'offre là au lieu qu'il... Puis là, ben là-dedans, peut-être qu'il va te sortir des érables.
Nous autres, le surbroutage des serres, c'est
épouvantable.
C'est un enjeu, puis malheureusement, la manière que la chasse est faite, puis que les gens aiment chasser... Ils vont tirer le plus gros bac.
Ouais.
Mais ils contrôleront pas la population. Moi, chez nous, sur mes terres, j'ouvre la chasse à qui veut bien venir tirer une femelle avec un permis spécial, tu sais, pas illégalement. Mais c'est comme ça. Mais c'est tellement minime ce qu'on récolte versus ce qu'il y a que ça se fait brouter. On perd l'avenir avec des érables en haut des genoux.
Non.
Ça fait des bonsaïs.
Au printemps, là.
Ça, c'est la fougère envahissante.
Ouais, au printemps, c'est vert d'érable.
C'est ça.
Vert d'érable, petit érable. Là, t'as la fougère. Les secteurs de fougère, là, t'es fait. Puis à l'automne, puis à l'hiver, les chevreuils, ils broutent tout.
On a essayé pour la fougère envahissante. Des secteurs qui sont avec les rouleaux et grosses fougères. Ah, c'est le fun, ça établit une régénération, puis à un moment donné, ça devient de garde-manger des chevreuils.
C'est ça.
Fait que là, ça recommence. Ouais. Fait que là, on en est à faire ce que David explique, faire des tas de branches ou même clôturer éventuellement.
J'ai une question, c'est pas drôle. Pas ça. Les rabes rouges, tu manges aussi par le chevreuil,
Plus. Puis là, si tu as un orignal dans le coin,
c'est ça. Ben, t'es fait.
Mais la seule chose qu'ils mangent pas, c'est les haies.
Les haies, ça, ils
mangent pas.
On aimerait bien ça, mais...
Ouais, c'est ça!
mais il faut se conscientiser, à chaque région, on a sa problématique. Et nous autres, notre région, elle a ça. On a des ravages de chevreuil, puis tu peux pas avoir 50 chevreuils dans 2000 entailles, puis espérer qu'il reste une régénération après. C'est le cas, c'est ce qu'on a.
Si un gars arrive, puis il mettait des balles de foin autour de son érablière.
Je sais pas. On a
j'ai peur de les attirer, moi.
Nous autres, dans notre coin, on aurait besoin d'être accompagnés là-dessus.
Ouais. Ouais.
De par une...
Ça serait un biologiste, ça.
Ouais.
Il y aurait des biologistes, d'après moi, qui pourraient développer des projets de recherche là-dessus. Là.
Mais c'est ça. Ou que la chasse soit en conséquence de maintenir un...
Ben, à un moment donné, il avait ouvert la chasse un peu plus longtemps, où il avait tiré la période dans la zone... C'est la zone 2, nous autres, c'est ça? Là,
ouais, nous autres, c'est 7.
7, oui, c'est ça, 7. C'est ça. Puis il avait tiré la chasse un peu, puis même il y avait droit à deux bêtes.
Ben là, on a droit, les chasseurs ont droit une femelle, puis un permis spécial.
Permis spécial, en fait. C'est ça.
Puis on doit un boc si c'est pas dans la même zone. Il y a une pression de broutage, de surbroutage chez nous, qui se doit d'être contrôlée, parce que des érablières, ça va disparaître. ça va carrément disparaître. Puis tu vois, aux États-Unis, en Virginie, ils ont ce problème-là. Ouais. Ils sont rendus à clôturer, les érablières. Puis ça serait bien de ne pas venir à ça, en pensant. Puis tu sais, ça arrive nord aussi, je pense pas que ce soit le cas, mais nous autres, c'est une réalité qu'on a. L'Estrie vit cette réalité-là. Puis ça installe la fameuse fougère envahissante qu'on a de la misère à contrôler. Parce que même si on la contrôle, on n'a rien qui s'installe parce qu'on se fait brouter. Mm-hmm. C'est ça, c'est comme un cercle vicieux.
Ouais.
Nerf prun aussi, je ne sais pas si
dans ta. On n'a pas ça, nous autres.
Vous n'avez pas ça.
On a problème là encore pour l'instant.
Croiser les
doigts. Ouais, on va se croiser. Non, OK. Hey, là, tout à l'heure, tu as parlé là, des sirops industriels. C'est pas la première fois que je viens ici. OK. Et puis, il y a déjà même une capsule là-dessus qu'on a déjà faite. J'ai un petit vin. Il y a un petit vin ici qui a été produit à partir de sirop de bourgeon. OK? Fait que un sirop de bourgeon là, qui était quand même assez intense. Là. Et puis, il a réussi à faire du vin avec ça. Puis je veux vous le faire goûter, puis on va voir quel genre de commentaires que vous allez nous donner. Et puis, si ma mémoire elle est bonne, il a aromatisé ça aussi avec des produits, des PFNL. Il y a, je pense, de l'argousier dedans et du thé du Labrador. Et si je me souviens bien, on m'a dit que le taux d'alcool est autour de 15%.
Petite courte,
monsieur.
Merci, belle petite courte.
T'es parfait.
Oui, mais c'est un beau échantillon de sirop d'érable, ça, là.
C'est merveilleux.
C'est.
Et. Hey, notre rencontre, je vous connaissais pas.
Moi, en tout cas, je le ferai aussi pour à la saison 2024.
Oui, à la saison 2024. Tentez. Moi, je vois.
Vas-y.
Vas-y, excuse.
Moi, je vais chercher l'argousier.
Oui, moi aussi.
T'es du Labrador, moi. Mais...
Ben, ça n'a pas beaucoup de goût, hein, le thé du Labrador. C'est très, très fin, le thé du Labrador. Mais c'est surtout l'argousier que je vais chercher. Puis ça, il y a des. On nous a préparé des petites choses à déguster. Je suis à peu près certain que ça va être le fun de déguster ça avec ça.
Ouais. Oui, mais ça.
Oui. Puis là, attends un peu, c'est pas fini. T'sais, on parlait d'un sirop de bourgeon. Tu sais, il y a des bourgeons, là, des fois, là, tu craches à terre. C'est bien de valeur, mais moi, j'avale pas ça quand je goûte ça. Il faut que je crache à terre. Là, je crache pas à terre. Là.
Non.
T'sais, on a réussi à valoriser un sirop
qui n'a pas un goût agréable au goût. C'est ça, là, la réalité. Arrêtez, c'est un sucre qu'on veut avoir. C'est carrément un sucre. Quand on fait un sirop de bourgeon, un sirop industriel, on veut le sucre.
Exactement.
Le reste, on a
réussi à faire du
bien. Moi, j'aimerais ça te parler de mon historique avec le sirop de bourgeon, tant qu'être là-dedans. Quand j'ai commencé à être producteur à Séricole, le sirop de bourgeon ne se vendait pas.
Ben non.
Puis il se vendait absolument pas, puis ça nuisait à mon contingent. J'avais un petit contingent, c'était dur de les faire augmenter. Puis moi, je demandais à détruire mon sirop de bourgeon pour pouvoir vendre mon meilleur sirop.
OK.
Tellement que ça ne se vendait pas, parce que ça embarquait sur mon prix, puis ça me nuisait sur mes versements au PEPAC. Je dis, ben, on peut-tu le détruire? Puis j'étais contre faire du sirop de bourgeon parce que ça nuisait à l'industrie. On en avait trop, on savait pas quoi en faire.
Ouais.
Oh, jusqu'au jour où un gars qui s'appelle Luc Lemay, Luc est arrivé, il m'a dit goûte dans ça.
Porris.
Il avait fait Porris sirop. C'est un alcool d'érable.
OK.
Puis là, j'ai réalisé qu'il y avait de quoi à faire avec ce sirop-là.
OK.
Puis là, je me suis mis à... J'avais un objectif. J'ai dit c'est super, Luc, ton produit. Moi, j'aimerais ça. Puis c'était un gin à l'érable qu'il avait fait. Okay. J'aimerais ça qu'une compagnie de gin internationale t'achète. Parce que si, prenons Doc Hyper, Doc Hyper achète ta recette, on manquera pas seulement de sirop de bourgeon, parce qu'il était fait avec du bourgeon, c'est mon Dieu. On manquera pas juste de sirop de bourgeon, on va manquer de sirop d'érable.
Tout court.
Puis là, ma relation avec le sirop de bourgeon a changé complètement.
Ouais.
Puis le marché industriel s'est développé. Puis finalement, aujourd'hui, on est en rupture de stock là-dessus. C'est anormal. On devrait, comme producteur, se rendre au bout. Les producteurs de pommes font pas juste de la pomme de qualité, je croque une pomme. Ouais, ils font de la pomme à jus, ils font de la pomme pour faire des tartes. Ils font de la pomme à chevreuil. Tout ça est valorisé. Puis nous autres, notre sirop, parce qu'à la fin, il n'y a pas de qualité.
Il n'y a pas un bon goût.
Il n'y a pas une bonne odeur, il n'y a pas bon goût, mais il y a quand même un produit intéressant. Il y a du sucre.
Il y a du sucre.
Puis, ce sirop-là, ils sont capables de faire quelque chose avec.
J'ai vu une petite émission une fois, ils ont fait goûter ça, ils ont pris des chefs à Montréal, des chefs, des grands chefs là, à Montréal. Là. Ils ont fait goûter du sirop de bourgeon à ces chefs-là. Okay? Pour le fun. Les gars, ils goûtaient à ça, ils ont dit, wow, ça, c'est un goût que je ne connais pas et je pourrais, de façon parcimonieuse, mais de façon parcimonieuse, réutiliser ça pour faire des nouvelles saveurs. Là, ils ont trippé, les gars. Là, ils ont trippé, c'était une nouvelle saveur.
Ou en transformant, comme
ça. Ou en transformant aussi.
Parce que tu prends le sirop de bourgeon, c'est vrai que le goût n'est pas agréable, mais si tu prends de la sauce voisine, le goût, il est pas agréable. Tu n'en cales pas une bouteille. Mais pourtant, ça va assaisonner des plats. Et même en assaisonnement, je pense que ça a sa place. Ce sirop-là gagne à être connu. Mais malheureusement, il est encore dénigré par plusieurs producteurs. Puis comme moi, je le faisais, elle le disait. On le vendait pas. Fait qu'on disait, faites-en pas, on va être pogné avec. Mais je pense qu'on devrait...
Il est dénigré pour les mauvaises raisons.
Je t'ai coupé, mais j'ai hâte de mixer les deux.
Hey, on a plein de choses.
Merci.
Merci.
On prend, mais... C'est du prosciutto, je pense.
Mais effectivement, le sirop de bourgeon, la comparaison est la meilleure. Les pommes ou les carottes ou n'importe quoi, là.
Ouais.
Ce monde-là, quand ils arrivent puis ils font plus de belles pommes, ils arrêtent pas puis ils font pas « Ah, ça existe plus » puis ils crissent tout au vinaigre. Nous autres, on fait du sirop qui va sur des crêpes, qui va sur dans des recettes qui est vraiment « wow », un goût exceptionnel, tout que la saison avance. Un sirop plus goûteux pour faire de la cuisine, faire ci, faire ça, encore « wow ». Pouh! On arrive à une étape de la saison que là, on tombe dans le sirop. Il est pas bon. Il goûte pas bon. J'en prends pas sur mes crêpes. J'en prends pas pour faire mes recettes mes recettes que je fais. Je fais de l'alcool. Je fais du cirage alimentaire. Je fais autre chose. Il y a une valeur, puis il est important de l'avoir parce qu'on va perdre des marchés.
C'est ton gravy aussi, là.
Exactement.
Tu n'envoies plus personne dans le bois à faire tes fuites, rien. Là, c'est ton gravy. Ça rentre tout ce que tu as. Tes frais opérationnels.
Tes frais fixes sont les mêmes. Tes frais fixes sont les mêmes.
Il y a un peu du combustible, mais à part ça, c'est ton gravy.
Il te reste tes variables, c'est tout.
Exactement.
C'est plus compliqué que ça. Tes frais variables sont couverts. Je comprends qu'un producteur de mille en table, qui rentre, 10 gallons de sirop par jour,
va arrêter.
Parce qu'à un moment donné, ça va
pas. Il fait de la canne.
C'est
correct. Il fait de la canne, là. Non, t'as pas
à mettre ça. Mais de là à dénigrer le produit.
Puis.
D'un producteur de, je sais pas, 50 000 entables qui va faire 7, 8, 10 barils à la fin de l'année, tout en... Chez nous, c'est pas compliqué, on a 60 000 entables, présentement, on désentaille, puis on continue à produire. Il y a des secteurs qu'on désentaille, les secteurs les plus chauds, puis il y a des secteurs qui produisent. Okay. Fait que, on est dans un sirop plus industriel, qui est encore un goût de sève, mais fort, mais qui va être servi, et qui va servir à faire ça. Tu sais, puis c'est à ça, puis il y a sa place. C'est important qu'il ait sa place, puis c'est important qu'on développe ces marchés-là.
Oui.
C'est des marchés différents, c'est des marchés de niche, puis ça valorise notre sirop. Puis moi, ça me permet de rentabiliser mon entreprise. C'est ces sirops-là qui rentabilisent les entreprises, surtout au prix des ententes qui sont rendues aujourd'hui.
Tout à fait.
Tu sais, le gars qui a une ferme laitière, qui a autre chose, il doit rentrer dans les champs. Lui, c'est pas rentable. Ouais. C'est pas rentable pour lui faire du sirop de bourgeon. Lui, il va faire, OK, moi, j'embarque dans les champs, puis ça presse.
Ouais.
Fait que c'est correct, mais faut pas dénigrer, c'est un sirop, puis on en a besoin. Puis là, maintenant, il n'y en a plus en réserve. Fait que c'est dur à trouver des marchés. Ces marchés-là, on les avait. Faut continuer, faut les garder. Un marché différent, c'est un sucre différent, mais... Faut que le monde arrête de dénigrer ce sirop-là. C'est un sucre. C'est plus un sirop. Tu sais, considère-les pas comme un sirop que tu vas boire, que tu vas manger. Considère-les comme un sucre. Puis un
produit transformation.
Ah, on a une belle preuve ici, là.
Oui.
Ah, je reprends, j'en voulais encore. Un dernier petit tour. On va faire la caméra.
On va essayer d'autres.